Chapitre 65. La femme au pistolet d'or. Dans une salle d'interrogatoire du siège de la police judiciaire à Genève, Macaire dévisagea avec inquiétude le lieutenant Sagamore. Celui-ci venait de poser devant lui un pistolet doré, emballé dans un sac en plastique. Macaire l'avait immédiatement reconnu.
« À en juger par la tête que vous faites, » dit Sagamore, « j'imagine que cette arme vous est familière. »
Macaire hocha la tête incrédule. « Ce pistolet appartient à ma femme, Anastasia. Où l'avez-vous trouvé ?»«
Dans le parc du palace de Verbier, à proximité directe d'une issue de secours. À en juger par son état, il a passé quelques mois dehors. »
« Est-ce qu'il s'agit de l'arme du crime ?»«
C'est ce que nous sommes en train d'essayer de déterminer. »«
Monsieur Besner, pourquoi votre épouse possédait-elle une arme à feu ?»«
C'est moi qui la lui avais offerte, après une série de cambriolages à Colony. »« Elle avait peur, elle voulait pouvoir se défendre, notamment lorsque je devais m'absenter pour des voyages d'affaires et qu'elle était seule à la maison. »«
Cette arme n'est pas déclarée, » fit remarquer Sagamore. « Comme la plupart des armes vendues de particulier à particulier, » indiqua Macaire. « La loi ne m'y oblige pas. Je l'ai acheté à une bourse aux armes à Zurich. »«
Quand ça ?»«
Il y a quelques années. »
Sagamore considéra un moment l'homme qui se trouvait face à lui. Le silence mit Macaire mal à l'aise.
« Monsieur Besner, » reprit le policier, « avez-vous une idée de la façon dont l'arme de votre épouse s'est retrouvée à Verbier ?»«
Aucune. Je suis aussi étonné que vous. » »«
Allons, vous avouerez que c'est pratique. Votre femme possède une arme non déclarée. Vous l'emportez avec vous à Verbier en prévision de l'élection. Ça peut toujours servir. »
« Enfin, lieutenant, » s'offusqua Macaire, « je ne vous permets pas ce genre d'insinuation.
Alors fournissez-moi une meilleure explication. »
« Je n'en ai pas. Je ne comprends pas comment cette arme a pu arriver à Verbier. »
Sagamore demanda alors, « Est-ce que votre femme est venue à Verbier pendant le week-end de la banque ?»«
Ma femme ? Non, pourquoi ?»
Sagamore ne répondit pas directement à la question. « Monsieur Besner, où se trouve votre épouse ?»
Macaire resta de marbre. « Je l'ignore, » mentit-il. « Elle m'a quitté, comme vous le savez. Je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis le mois de décembre. »
Sagamore savait qu'il ne tirerait rien de Macaire. Il ne l'avait d'ailleurs pas tant convoqué pour obtenir des aveux que pour étudier son comportement des prochaines heures. Si Macaire et Besner étaient mêlés à ce meurtre, ils le découvriraient rapidement.
Après le départ de Macaire du siège de la police judiciaire, Sagamore téléphona immédiatement à Christina.
« Macaire vient de s'en aller. J'ai mis une équipe pour le suivre, une autre en planque à son domicile. Toi, ne le lâche pas à la banque. »«
Compris. Des nouvelles du laboratoire concernant l'arme ?»«
C'est bien un calibre 9 mm comme l'arme du crime, mais la rouille et la corrosion du canon empêchent d'établir s'il s'agit de l'arme du crime. »«
Merde !»
pesta Christina.
« T'as une hypothèse ?»
« Je pense que le meurtrier est soit Macaire et Besner, soit Anastasia et Besner. »«
Quel mobile aurait eu Anastasia et Besner ?»«
Je n'en suis pas certain, mais il s'agit de son arme et elle a disparu depuis le meurtre. »«
Ça fait suffisamment d'éléments pour se poser des questions. »« Enfin, j'ai convoqué la mère et la sœur d'Anastasia et Besner, elles pourront peut-être m'aider. »
Sagamore raccrocha et observa le tableau blanc face à son bureau sur lequel il avait ajouté la photo d'Anastasia. Le pistolet avait été découvert à proximité de l'une des issues de secours du palace. D'après le plan de l'hôtel, il s'agissait de la sortie la plus directe si l'on descendait à pied depuis le sixième étage. Elle donnait sur une petite route qui permettait de s'enfuir discrètement du palace, à pied ou en voiture. Pour Sagamore, le meurtrier était passé par cette porte. Avait-il laissé tomber l'arme par mégarde dans sa fuite ? L'avait-il jeté dans la neige pour s'en défaire, assuré qu'on ne la retrouverait pas avant la fonte des neiges et qu'il serait alors déjà loin ? Sagamore fixa encore la photo d'Anastasia. Avait-elle tué Jean-Bénédicte Hansen ? À Sagamore, qui l'interrogea, Olga von Lacht assura ne pas avoir la moindre idée de l'endroit où se trouvait sa fille.
« En tout cas, je déplore qu'elle ait quitté son mari, » dit Olga. « C'est tout à fait lamentable. »
« Anastasia, vous avait-elle prévenu qu'elle comptait s'en aller ?»«
Non, »
mentit Olga.
« Alors, comment savez-vous qu'Anastasia a quitté son mari ?» demanda Sagamore.
« C'est Macaire, son mari, qui m'en a informé, évidemment. »
Olga ne comprit pas le sens de cette question.
Pour Sagamore, elle n'était pourtant pas sans fondement. Il se demandait si Macaire avait pu se débarrasser de sa femme. Était-elle un témoin gênant de ce qui s'était passé? Mais Sagamore écarta cette hypothèse après avoir parlé avec Irina, la sœur d'Anastasia. Irina raconta qu'Anastasia avait toujours eu la préférence de sa mère.
« Elle a passé son temps à la couver et la protéger, » expliqua Irina. « Il n'y en avait que pour elle. »
« Est-ce que vous savez où peut bien se trouver votre sœur aujourd'hui ?»«
Aucune idée. Sans doute au soleil, en train de se la couler douce avec son banquier. »«
Son banquier ? Quel banquier ?»«
Lev Levovitch. Ils avaient une liaison. Lors d'un déjeuner, Anastasia nous a montré un bracelet en or qu'il lui avait offert. Elle disait qu'elle voulait partir avec lui. Je suis sûr qu'ils sont ensemble. D'ailleurs, je l'ai dit à Macaire et Besner.
Ah bon ?
Je lui ai écrit une lettre anonyme au début du printemps. Je l'avais croisé une ou deux fois, tout triste, encore tout amoureux. Je me suis dit qu'il avait le droit de savoir.
Cet après-midi-là, à Corfou, Anastasia se baignait dans la mer ionienne. Lev l'observait amoureusement depuis la terrasse où il lisait le journal et buvait un café. Elle le regardait aussi et finit par éclater de rire.
« On va rester longtemps à se dévisager ainsi ? » s'écria-t-elle. « Va mettre ton maillot et rejoins-moi. »«
J'arrive, » promit-il. « Je termine mon journal et j'arrive. »
Au même instant, à Colony, Macaire arriva chez lui en trombe.
« Déjà rentré ?»
s'étonna Armand en le voyant débouler dans le hall. Macaire ne prit même pas la peine de répondre. Il se dirigea directement dans son boudoir et s'y enferma. L'heure était grave. Les preuves s'accumulaient contre Anastasia, sa présence au palace le week-end du meurtre, son arme retrouvée là-bas. Surtout, Macaire n'arrêtait pas de repenser à ce que Lev lui avait confié lorsqu'il s'était vu pour la dernière fois au parc des Eaux-Vives. Anastasia et lui étaient sortis par une issue de secours, mais elle était soudain retournée à l'intérieur. Elle était remontée pour tuer Jean-Bénédicte. Puis elle avait laissé le mot sous sa porte, elle était repassée par l'issue de secours, s'était débarrassée de l'arme et s'était enfuie. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit le message glissé sous sa porte le matin du meurtre, ainsi que les lettres envoyées depuis Corfou. Il jeta le tout dans sa corbeille en fer et il y mit le feu. Il fallait tout détruire. En regardant les lettres se consumer, Macaire sentit la tristesse l'envahir. Il l'avait tellement aimée. Elle avait été l'amour de sa vie. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle ait des ennuis. Il fallait la prévenir. Il avait besoin d'aide. Il attrapa la boîte à musique posée sur une étagère et la fit jouer pour en faire sortir le numéro de téléphone. Il le mémorisa, puis il quitta la pièce à grands pas.
« Que se passe-t-il, Macaire ?»
demanda Arma, le voyant passer en tempête. Il s'en alla sans donner d'explication. Il sauta à bord de sa voiture et démarra sur les chapeaux de roue. Il s'engagea dans le chemin de route et prit la direction du village des colonies. Les policiers en planque devant chez lui le prirent aussitôt en filature. Sagamore était dans son bureau du siège de la police judiciaire lorsqu'on le prévint.
« Lieutenant Macaire et Besner est rentré chez lui en coup de vent. Il y est resté 10 minutes et il vient de repartir. Il a l'air pressé. »«
Il se tire, » décréta Sagamore. « Collez-le discrètement, il faut voir où il va. Je vous rejoins. »
Le lieutenant quitta son bureau à toute vitesse et dévala les escaliers 4 à 4 pour rejoindre le parking souterrain. Il monta à bord de son véhicule banalisé, plaça son gyrophare sur le toit et fonça à travers la ville, toute sirène hurlante. Macaire n'alla toutefois pas très loin. Il se gara à proximité de la place centrale du village de Colony et traversa le gazon du petit parc qui s'y trouvait pour rejoindre une cabine téléphonique. Sagamore était en train de remonter la rue de la Confédération quand on l'informa de la situation.
« Une cabine téléphonique ? » s'étonna-t-il. « Trouvez-moi quelqu'un pour retracer son appel. Nous devons savoir qui il est en train de contacter. »«
Wagner, » dit Macaire dans la cabine à son interlocuteur. « J'ai besoin de votre aide. C'est à propos d'Anastasia. »«
Que se passe-t-il ? »
demanda Wagner. La police a retrouvé une arme lui appartenant à proximité du palace de Verbier.
« Quoi ? »
s'étonna Wagner.
Comment est-ce possible?
C'est une longue histoire. Tout l'accable, Wagner. Elle était au palace le week-end du meurtre. C'est son arme à feu qui a été retrouvée. Elle m'a laissé un message qui ressemble à une confession, mais je sais qu'elle n'y est pour rien.
Comment pouvez-vous en être si certain?
Elle me l'a dit. Enfin, elle m'a écrit depuis Corfou.
Nous avons échangé plusieurs lettres, je lui réponds par la poste restante.
Anastasia vous a écrit ?
Oui. Elle voulait me dire qu'elle pensait à moi, qu'elle espérait que je lui pardonnerais ce qu'elle a fait.
Ce qu'elle a fait ? Vous voulez dire tuer Jean-Bénédicte Hansen ?
Non. Je lui ai demandé si c'était elle. Elle m'a assuré que non.
Laissez-moi voir ce que je peux faire,
dit Wagner.
Je vous recontacte.
Les deux hommes raccrochèrent.
Il a raccroché,
annonça à Sagamore, l'un des inspecteurs qui observait la scène.
On essaie de retracer son appel, mais ça va prendre un peu de temps.
Le lieutenant roulait à présent à toute allure sur le quai Gustave Adore.
Interpellez-le, ordonna-t-il.
À Colony, les policiers en embuscade se précipitèrent vers Macaire, qui sortait de la cabine téléphonique. Wagner resta songeur, le combiné encore en main. Il n'avait pas vu la silhouette derrière lui, qui avait assisté à la conversation. C'était Alfred.
« Qu'est-ce que vous faites, monsieur Lebovitch ? Vous m'aviez promis que c'était terminé. »
Lev baissa la tête. Il se racla la gorge pour retrouver sa voix. « Je ne peux pas faire autrement, Alfred. »
« Mais enfin, monsieur, vous allez tout perdre. Vous êtes en train de jouer avec le feu et vous allez vous brûler les doigts.
Vous ne comprenez pas, Alfred. Je peux pas arrêter. » 14 ans plus tôt. À la mi-février, le jour où l'acte de vente de la maison du Pré Byron fut signé, Macaire et Anastasia s'unissaient à la mairie de Collonges-Belle-Rive. Lev, de retour de chez le notaire, les avait observés depuis sa voiture au sortir de la mairie. Ils avaient l'air heureux. Ainsi, elle avait dit oui. Tout était terminé pour de bon. Il ne serait donc jamais cet homme à ses côtés. Il ne serait jamais son mari. Lev, le cœur brisé, s'en alla et rejoignit l'immense maison du Pré Byron, qui était désormais la sienne. Les pièces étaient toutes vides, à l'exception d'une chambre au milieu de laquelle se trouvait une petite table avec un téléphone posé dessus. Il décrocha le combiné et décida d'appeler la seule personne qui lui restait dans sa vie. Son père. Au centre de soins palliatifs de Martigny, l'infirmière qui répondit à Lev avait une voix grave.
« Monsieur Lebovitch, nous avons essayé de vous joindre depuis ce matin. Votre père est au plus mal. Il faut que vous veniez immédiatement. »
Lev sauta dans sa voiture et fonça jusqu'à Martigny sans se soucier des limitations de vitesse. Lorsqu'il entra dans la chambre de son père, Monsieur Rose était déjà là. Aux larmes qui coulaient sur son visage, Lev comprit que son père vivait ses derniers instants. Il s'approcha du lit et embrassa le visage de celui qu'il ne reverrait plus. « Je te demande pardon pour la bague de maman, » dit Lev. « Je regrette tellement ce que j'ai fait. »«
Regrette rien, Lev, » articula difficilement Sol. « Je suis tellement fier de toi. Tu as sublimé le personnage de Tarnogol. Tu as fait ce que peu d'acteurs sont capables de faire. Tu as rendu un personnage vivant.
« Nous sommes les Lebovitch, » murmura Lev. « Une grande lignée d'acteurs. »«
Une grande lignée d'acteurs, » sourit le père.
Sol tenait contre lui son grand livre relié en cuir dans lequel il avait décrit tous ses personnages. Usant du peu de force qui lui restait, il le tendit à son fils.
« Joue mes personnages, mon fils. »
« Je te le promets. »
« Fais-les vivre à jamais. Ainsi, je vivrai pour toujours en toi. »
Le petit père sourit et il s'endormit pour toujours, apaisé. Cette nuit-là, de retour à Genève, Lev répandit un bidon d'essence à travers tout le rez-de-chaussée de sa nouvelle maison et il y mit le feu. Puis, sans attendre les pompiers, il s'en alla et se rendit à l'hôtel des Bergues.
« Je voudrais louer votre plus grande suite. » dit-il au réceptionniste.
« Pour une nuit ? » ?»«
Pour toujours. »